Jusqu'à 18h, c'est Isabelle Morizet.
Tout le monde en parle de Béatrice Arbisson. Pas parce qu'elle est femme de, mais parce qu'elle a inventé un business futé, un curieux métier qui fait d'elle une icône branchée en même temps qu'une femme d'affaires. Elle est illustratrice sonore. Pas compositeur, non, non. Elle sonorise musicalement des lieux ou des événements avec des reprises de tubes. Et on fait même d'ailleurs des compiles à thème comme ce Rio Mania qui vient de sortir chez Naïve. Bonjour Béatrice Arbisson.
Bonjour.
Alors, comment faire de la musique quand on ne compose pas? En fait, il y avait un rouage à trouver et vous avez mis le doigt dessus.
Bon, en fait, ça s'est pas fait, enfin, je l'ai vraiment pas fait exprès. Ça s'est fait complètement par hasard. Moi, j'ai commencé à travailler dans la mode à 17-18 ans, très jeune. Et ensuite, je me suis arrêtée de travailler pour élever mes enfants en Normandie.
Ouais.
Pendant ce temps-là, j'ai classé ma discothèque et j'ai commencé à travailler sur des ordinateurs, à m'intéresser à ça. Je voulais absolument apprendre.
Travailler dans le son.
Je voulais utiliser les ordinateurs pour classer ma discothèque. Et en fait, ça a commencé vraiment comme ça. C'est que je me suis très vite rendu compte qu'avec un ordinateur, on pouvait créer une base de données très importante, thématiser les choses, ouais, les disques. Alors j'ai commencé à classer les prénoms en chansons, par exemple. J'en ai tout de suite trouvé 1500. Enfin, à chaque fois, ça va très très vite en nombre. Et puis, il se trouve qu'à l'époque, Thierry s'occupait de Paris Dernière, qui était une émission que lui présentait à ce moment-là. Mmh. Et il y a eu besoin, quand il a arrêté de la présenter, l'émission s'est arrêtée un an, si je me souviens bien. Et ensuite, il a demandé à Frédéric Taddeï de reprendre la présentation. Et il y avait besoin, pour cette émission en particulier, de beaucoup de musique. Et il m'a dit, est-ce que tu veux essayer? Parce que j'avais déjà donné des coups de main sur des émissions, des génériques, des jingles, des choses comme ça. Mais vraiment pour donner des coups de main. Et ça me plaisait beaucoup. J'ai toujours voulu travailler dans la musique, je ne savais pas comment faire, comment mettre un pied dedans. Et quand il m'a proposé ça, j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai dit à condition qu'on ne passe que des reprises, parce que je voulais qu'il y ait un concept dans l'émission. Et il m'a dit ok, bonne idée, on va passer que des reprises. Et il a vraiment...
Mais c'est curieux ce qu'il a pris tout de même, uniquement des reprises.
Que des reprises, parce que en rangeant ma discothèque et en classant mes
titres... Elle doit être vraiment grande cette discothèque.
Voilà, qui est importante, qui était que des vinyles. Je m'étais rendu compte qu'il y avait, par exemple, beaucoup de reprises des titres de Beatles. Tous les artistes, à un moment ou un autre de leur vie, ils font une reprise de quelqu'un qu'ils aiment ou de quelqu'un qu'ils détestent. C'est un exercice de musicien, en fait, c'est un exercice de style. Et donc,
Et vous trouvez qu'il y a beaucoup de trouvailles justement dans cet exercice-là.
C'est intéressant quand ils en font une recréation. Mmh. Voilà, c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui font des reprises qui n'ont aucun intérêt. Hein. Celles-là, moi, je ne les utilise pas. Ce qui m'intéresse, et j'en avais déjà pas mal en stock, c'est quand elles traduisent l'univers de l'artiste en question.
Ou un vrai décalage avec l'original.
Une chanson, ça peut passer au crible de tonnes d'interprétations différentes. C'est très intéressant, ça. C'est vraiment un travail artistique. C'est ça qui m'intéressait. Et donc, on a commencé comme ça. Au bout d'un an, au bout de deux mois, les gens appelaient pour savoir où ils pouvaient trouver la musique. Et ma chance, ça a été que personne ne savait que je faisais cette émission. Je signais juste à la fin, mais bon, voilà. Et en fait, la musique a été connue avant moi. C'est reprise, cette histoire de Paris Dernière, ça a été star bien avant que moi, on me connaisse.
Ce qui vous donne une légitimité,
ouais,
en fait, une crédibilité, puisque
ça m'a
vous dites... C'est mon travail qui a ouvert les portes.
Absolument.
Mais alors, illustratrice sonore, Béatrice Arbisson, ça manque un petit peu d'humour comme formule. En réalité, vous êtes quoi? Vous êtes tricoteuse d'ambiance?
Et ben après Paris Dernière. Alors, Paris Dernière, c'était le premier concept musical. Et il y a très vite des lieux qui m'ont appelé. Ça a commencé avec un bar indien dans le 8e qui s'appelait le Jaipur. On m'a demandé d'illustrer ça avec de la musique indienne. Donc je connaissais pas bien la musique indienne. Je me suis immergée là-dedans. J'ai tout acheté, tout écouté. Ça m'a passionnée. J'adore ça en fait. C'est de la recherche musicale. Et c'est vraiment le moment que je préfère. C'est quand un lieu m'appelle et qu'on me demande de trouver le concept, l'idée, et que je m'immerge dans le concept que je propose. Quoi.
Un lieu ou un événement, c'est-à-dire qu'il y a plein de terrains de jeu qui sont ouverts devant vous.
Oui. Bah oui, la musique, c'est un des plus grands dénominateurs communs entre les gens. Et c'est vrai que quand on s'occupe de musique, on peut faire à la fois des soirées, des événements, des lieux, des émissions de télévision, il y a le cinéma aussi, enfin, il y a plein de choses possibles.
Quelle est votre formation musicale?
Alors, j'ai fait 8 ans de piano, voilà, avec une grande tante qui était premier prix du conservatoire. Et puis après, on a bougé, j'ai déménagé, j'ai plus jamais touché un piano, ça a été terminé.
Alors, Béatrice Arbisson, assurer l'habillage musical des premières émissions, donc de Thierry avec ses coups de cœur, ça c'est des techs perso, très bien, ça va. Après, sur la durée, quand le concept prend forme, justement, vous venez d'ailleurs de l'évoquer, il s'agit d'illustrations musicales uniquement avec des reprises, et des reprises décalées, on les trouve où, les disques?
Alors, moi j'ai commencé vraiment toujours avec ma discothèque, mais toute seule, hein. Il en fallait 15 par semaine. D'ailleurs, Thierry, au bout d'un an, m'a dit, est-ce que tu es sûre que tu vas réussir à
livrer, à fournir?
Ouais. Et je dis, tu te rends pas compte. Plus j'en cherche, plus j'en trouve. C'est incroyable. C'est comme si on m'avait ouvert.
Mais où? Comment? Grâce à qui?
Alors, d'abord dans ma discothèque, et puis avec Internet, évidemment, on trouve beaucoup de choses. Il se trouve que moi, j'ai en plus de ça de la famille un peu partout dans le monde. Donc, j'avais un oncle en Suède qui m'envoie un disque de reprise de ABBA en jazz, des cousines au Japon qui m'envoient des curiosités aussi comme ça. Et puis, les gens, en écoutant l'émission, tous les gens qui aiment la musique, ils m'envoient des choses, ils m'envoient des reprises. Ça les amuse, donc ils me communiquent.
Vous avez établi des réseaux, des
voilà,
filières.
Absolument.
Ouais. De titres qu'on n'entend jamais sur les radios, en fait.
Non, parce que c'est généralement une reprise, ça se trouve dans un album, et c'est pas le titre qui est phare et
qui
donc sert pour la promo. Donc la reprise, c'est très festif, c'est un jeu, c'est très ludique, et souvent les artistes s'amusent beaucoup avec ça. Moi, c'est vraiment un jeu. Hein,
alors le plus dur, ça doit être de renouveler son stock. Votre stock, à vous, c'est votre banque de données. Vous avez combien de titres dans cette banque de données?
On en a référencé 20 000, mais là, on est en train de travailler dessus, parce qu'évidemment, 20 000, c'est ce qui est référencé, mais j'en ai beaucoup plus que ça, en fait. Il y a des choses, tas de choses dans mes étagères.
Étant donné que vous êtes en train de devenir une businesswoman assez exceptionnelle,
ouais,
on parle d'ailleurs dans
pas.
Le Figaro économique avec une entreprise vraiment qui
non,
ne
j'étais
pas
obligée.
Crise,
le problème,
ça
c'est
pas
qu'en
suffire,
fait,
20 000,
pas, je suis pas une businesswoman. J'ai été obligée, évidemment, quand j'ai eu plusieurs demandes, quand vous avez des endroits comme le Bristol, le Crillon et le Fouquet's, moi, j'avais pas envie d'être obligée de dire non à des beaux projets. Donc, je me suis organisée pour pouvoir travailler sur plusieurs projets.
Vous payez des droits pour utiliser tous ces titres qui sont des reprises?
Alors, normalement, les lieux ont un contrat avec la SACEM, et nous, on paye des droits avec la... Alors, SCCP, SPPF, c'est des droits de reproduction, c'est très complexe, c'est pas moi qui m'en occupe.
Depuis que le concept est né, vous n'avez jamais eu la tentation d'utiliser des tubes originaux, tout de même?
Ah, mais j'utilise beaucoup de musique originale. Je n'utilise pas que des reprises. Les reprises, on va dire que c'est le fil rouge dans mon travail,
oui.
Mais il y a des tas d'endroits... Par exemple, on a fait la boutique Vuitton à Tokyo et il y a beaucoup, beaucoup d'originaux, de titres qui sont ultra modernes, mélangés à quelques reprises, mais il n'y a pas du tout que ça.
Alors, Béatrice Ardisson, vous parlez de la boutique Vuitton à Tokyo. Concrètement, j'aimerais savoir comment ça se passe. On vous appelle pour faire l'habillage sonore d'un lieu, d'un endroit. Vous y allez pour l'apprivoiser,
ben là, j'ai
pour
pas pu y aller.
Vivre les gens. Vous n'êtes pas allé à Tokyo?
J'y ai été, mais après, une fois que le travail était fait.
Vous n'avez pas rodé avant sur place?
Non, d'ailleurs, ça a été pour moi un grand problème parce que, alors j'ai récupéré toute la doc que j'ai pu. Je leur a demandé de m'envoyer tout ce qu'ils avaient comme documents sur le nouveau bâtiment. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un vrai problème parce que j'ai vraiment besoin de me retrouver dans le lieu à un moment pour traduire l'atmosphère en musique.
Mais alors, quand vous parlez par exemple de palace, comme vous avez cité tout à l'heure le Crillon.
Oui.
Bon, alors, comment procédez-vous?
Ah ben là, je les ai rencontrés, j'y ai été et je leur ai dit, moi ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire swinguer le Crillon. Et la thématique, c'est le swing au Crillon.
Audacieux.
Parce qu'il faut savoir que le swing, ça n'est pas que rétro. Il y a aussi des tas de jeunes artistes qui travaillent sur des titres swing, mais de façon extrêmement moderne. Donc c'est le mélange des deux qui m'intéresse.
Mais quand vous dites swinguer le Crillon, c'est-à-dire que la musique donc que vous dénichez, elle passe où? Elle
alors,
passe dans les chambres, elle passe dans la salle
non,
de restaurant
c'est très souvent,
elle passe...
Alors, c'est très souvent dans les bars. Et les restaurants, mais on peut évidemment aussi le faire dans les chambres. On est sur un projet sur lequel on travaille qui serait peut-être comme ça. Mais surtout, nous, on a développé parallèlement. Il se trouve qu'au départ, j'ai commencé avec des CD pour mon petit bar, là, et ensuite pour le Fouquet, qui a été aussi un des premiers à m'appeler. Dominique Desaigne, un matin, 9h du matin, j'étais à mon bureau, hop. Il m'a demandé si je pouvais m'occuper de l'ambiance sonore du Fouquet. Donc là, au départ, j'ai fourni des CD. Et puis, j'ai trouvé ça très compliqué, pas forcément efficace, parce que c'est les barman qui mettent les CD, ils n'ont pas que ça à faire. Donc, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai croisé un garçon qui travaillait déjà avec moi sur des bandes-son pour des événements, justement, qui est aussi ingénieur en informatique, qui s'appelle Olivier Saunier.
Oui.
Et je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que tu pourrais me développer un logiciel sur mesure pour diffuser mon son dans les endroits? Et on a fait ça, on s'est associé, on a développé sur mesure ce logiciel qui s'appelle le SDS, Sound Design System, et qui diffuse la musique en suivant des calendriers. Ça commence le matin, ça s'arrête tout seul le soir.
Via Internet?
On peut envoyer les musiques par Internet, mais ça c'est un ordinateur. C'est-à-dire qu'une fois que la base, ou la recherche, ou un sound design, on commence par 20 heures. Et ça peut aller jusqu'à 75 heures de musique. C'est une petite radio interne. Hein. L'idée, c'est ça. Et en fait, on fait exactement ce qu'on veut. Moi, il m'a développé ça. Si à l'heure du déjeuner, je veux que ça baisse et qu'il n'y ait que des titres très doux, on peut le faire. Si on décide de faire une soirée particulière pour ce lieu-là, entre 8h du soir et 11h du soir.
Alors c'est piloté depuis votre bureau ?
Ah oui, moi je travaille de chez moi, en Normandie.
Vous êtes la reine des ordinateurs alors ?
Bah, j'ai appris, j'ai eu des grands moments de solitude.
Il vous a pas aidé votre mari, Thierry Ardisson ?
Non, Thierry, non, lui, c'est un ordinateur, il n'en a pas besoin.
Alors, c'est très excitant, mais en même temps, finalement, vous jouez toujours avec la musique des autres, puisque vous ne composez pas. C'est pas frustrant de ne pas travailler avec sa propre musique et de sortir des disques qui ne sont pas les siens ? Vous n'avez pas cette tentation un jour de vous mettre devant un clavier de composer ?
Je n'avais pas cette prétention, on va dire, mais d'abord, j'adore la musique des autres. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver... C'est un peu comme les gens qui vont aux puces et qui cherchent la rareté, l'objet curieux, le qui ouvre une malle et qui tombe sur une curiosité incroyable. C'est ce que je fais en musique, c'est ça, quand même. Mais depuis 2-3 ans, je travaille avec des musiciens et on commence à composer des titres originaux. Et dans ces cas-là, j'assure là-dessus une direction artistique.
Attention,
et...
vous allez devenir bientôt Quincy Jones, Béatrice Ardisson.
Ah bah alors là, vous me flattez beaucoup. C'est pas gagné.
Est-ce que vous auriez aimé être une pop star ?
Ah bah pas du tout, non, moi tout le côté, je me suis obligée à parler de ce projet parce qu'il y a eu des demandes assez rapidement, dès qu'on a sorti le disque chez Naïve, parce qu'il y avait une demande des gens qui écoutaient l'émission Paris Dernière, il y a évidemment des journalistes qui ont appelé, qui m'ont demandé de venir à des interviews, des trucs, pour moi ça c'était horrible. Hein.
Mais dis pas, vous souffrez là en ce moment.
Bah, beaucoup moins maintenant,
ah,
mais ça fait 7 ans que j'ai commencé, donc j'ai du training maintenant. mais pour moi c'était une vraie angoisse, j'aime pas ça. Me retrouver interrogée, c'est pas un truc qui me plaît, ce qui me plaît c'est être derrière mon ordinateur.
Piloter vos machines.
Ouais, et écouter de la musique, c'est ça.
C'est vraiment un travail que vous faites de manière tout à fait solitaire.
Ouais, je suis très seule. Mais je peux maintenant, quand on travaille sur plusieurs lieux comme je le fais maintenant, je peux diriger des recherches sur une thématique que je donne au départ, mais de toutes les façons et à la sortie, c'est toujours moi qui sélectionne les musiques qui vont rester et qu'on va utiliser sur le lieu. Donc évidemment, ça prend un temps infini. J'y passe des nuits entières.
Hein. Alors j'imagine que Thierry Ardisson, votre mari, pensait au départ qu'il s'agissait pour vous juste d'un hobby.
Oui.
À présent, on parle de votre société dans le Figaro économique, n'est-ce pas ? Elle fait des bénéfices, elle prospère.
C'est une petite société quand même.
Oui,
encore, hein.
C'est une petite société, mais justement,
je veux rester ce qu'on est en ce moment, c'est-à-dire c'est un bureau de style musical. Je me suis toujours
exactement
de la mode.
Dans la mode.
Ouais.
Voilà.
J'ai commencé dans la mode, donc je me suis toujours inspirée de la mode pour développer mon activité en musique. Et de la même façon que je fais des collections en CD, et ça s'apparente aussi à la mode, les collections, et aux livres. Voilà.
Ça pourrait aussi s'apparenter à la décoration.
Absolument, oui. C'est de la décoration sonore.
Est-ce qu'il n'est pas aussi fier qu'inquiet, votre époux ?
Les deux, oui. Mais c'est normal. Ah ouais. Même moi, je suis inquiète, parce que c'est vrai que ça a été très vite, quand même, en 7 ans. Il y a eu des demandes très très rapidement. J'ai jamais été démarchée personne, moi. Les gens m'ont appelé et j'ai essayé juste de répondre à cette demande le mieux possible.
Quels sont les projets un peu fous que vous aimeriez bien boucler d'ici un an ?
Ah là, il y a un projet génial et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais en parler parce qu'on est en train de travailler dessus. J'aurais jamais osé le faire toute seule comme ça, mais les gens qui s'occupent du catalogue Bowie en France nous ont contactés pour que je travaille sur un Bowie Mania.
Parce c'est la vous qui Mania... allez avoir donc la responsabilité de choisir dans toute la discographie du fameux Bowie les titres
On est en train d'en parler en ce moment et je suis
définitivement
vraiment
ouais,
très touchée qu'on m'ait demandé ça parce que la collection Mania, elle est faite pour ça. C'est-à-dire que on travaille sur un univers. Quand on fait Clo-Clo Mania, on travaille sur l'univers de Clo-Clo.
Oui.
Quand on fait Rio Mania, on travaille sur le Brésil. Quand on fait Indomania, c'est sur l'Inde. Et faire Clo-Clo Mania et Bowie Mania, c'est un raccourci de mon travail, je trouve absolument génial. Parce que j'aime bien les deux facettes. J'ai toujours utilisé beaucoup de rock dans toutes les émissions que j'ai faites. Mais le côté... un peu curieux, kitsch, m'amuse beaucoup aussi. J'ai toujours besoin quand même de cette note un peu décalée.
Alors pour trouver des reprises de Bowie, c'est quand même pas si évident.
J'en ai déjà plein. Là pour l'instant, on est en train de vérifier ce que j'ai et ce qu'eux ont de leur côté. Et s'il nous manque des titres très importants, à ce moment-là, je compte faire travailler des musiciens sur le projet.
Femme 2, c'est désormais une formule qui doit bien vous faire rire, non ?
Bah, on vous met facilement, je crois que c'est très français ça, on vous met facilement dans une petite case. J'étais très bien, moi, en Normandie, dans ma maison, avec mes enfants. Je ne voulais pas absolument travailler. Il se trouve que quand j'ai réussi à faire ce qui était mon rêve, parce que c'est vraiment un rêve, la mode, j'aimais ça, mais ce n'était pas une passion. Alors que la musique, ça a toujours été une passion. Quand je jouais au piano, je passais mes journées, moi, quand j'étais pensionnaire, à faire des gammes, à travailler mes morceaux. J'ai toujours aimé ça. Mais dans ma famille, il n'y avait personne dans la musique et je ne savais pas du tout comment je pouvais faire. Je n'avais pas personne pour m'aider. Et il se trouve que ça s'est fait comme ça, c'est un coup de bol. Et c'est Thierry qui m'a vraiment aidé là-dessus et soutenu. Parce que dans une émission comme Paris Dernière, au départ, c'était une émission très pointue. Tout le monde pensait qu'il fallait mettre des nouveautés et des choses un peu underground et tout. Et il m'a vraiment défendu. Chaque fois que quelqu'un essayait de changer le principe des reprises, il disait « Non, 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 ça c'est pas une reprise, on ne met que des reprises. » Donc il m'a vraiment protégée à ce niveau-là.
Vous travaillez aussi sur Tout le monde en parle ?
Oui.
Mais en fait, vous avez participé d'une manière assez manifeste au succès de votre mari.
Je m'occupe du... il a besoin de personne. il a fait des succès avant que
je travaille. Elle se dépêche vite de rectifier.
Non, c'est pas... Mais c'est vrai. Il a pas... Mais je pense qu'on s'entend très très bien tous les deux en musique. Il intervient beaucoup sur les titres qu'on choisit, dont tout le monde en parle. Moi, ce que j'ai apporté, c'est par exemple de dire, à un moment, j'ai fait 134 blind tests thématiques qui étaient joués par Corti sur le plateau. Et puis, au bout de 130 et quelques, j'ai dit à Thierry, il faut évoluer. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas passer des DJ? Parce que j'adore les DJ. Je travaille avec des DJ dans les soirées. C'est pas moi qui passe les disques. Hein. Je travaille avec les gens qui les passent. Je ne touche pas.
Vous ne touchez
les
pas aux platines,
je renverse mes verres dessus. Donc, je ne touche pas. Je suis assez maladroite. Donc, c'est vrai que c'est un des rares endroits à la télévision où on peut inviter des gens comme ça, ouais, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'autres occasions.
Source d'exposition.
Ah ouais, non, en télé, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Donc voilà, ça c'est très important pour moi parce que c'est la suite, c'est développer un concept qui existe déjà et c'est l'enrichir, trouver de nouvelles idées. On est en train d'évoluer en faisant passer maintenant des gens connus qui passent des titres. Donc voilà, tout ça, ça évolue sans arrêt.
Comment vous faites pour assumer... Attention, hein. Comment vous faites pour assumer la dimension provocatrice de votre homme qui, tous les samedis soirs, dans le poste, fustige le people et le politique ?
Oh, mais moi, j'ai une théorie, c'est vivre et laisser vivre. Et c'est Nathalie Barnet qui disait ça. Et franchement, j'essaye de l'appliquer. C'est pas toujours facile. Hein. Quelquefois, il m'agace et je lui dis. Ses enfants aussi, d'ailleurs.
Et comment il le prend ?
Et bah, il nous écoute. Non, non, mais Thierry, c'est quelqu'un à qui il est très intelligent. Ça fait 20 ans que je vis avec lui et j'aurais pas passé 20 ans avec quelqu'un qui m'agace trop.
Est-ce que l'homme qui présente Tout le monde en parle ressemble à l'homme qui est votre mari ?
La télé, c'est quand même un miroir un peu grossissant et déformant dans la vie. Thierry, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a appris. Moi, j'ai appris à travailler à son contact, hein, vraiment. Il développe des idées, c'est un créatif. Il ne fait que ça, c'est pas quelqu'un...
Il a une gestion du temps très particulière, très méticuleuse.
Oui, il fait... Oui. Il est assez précis, oui. Mais il bosse tout le temps, quoi, le week-end. Dans les métiers créatifs, c'est pas gênant de travailler le week-end. Nous, on travaille tous les deux le week-end et c'est pas du tout un problème. C'est une autre vie, c'est pas du tout une vie classique.
On le connaît, cynique, teigneux, souvent. Vous lui connaissez quelle faille, quel doute ?
Thierry, il n'est pas du tout sûr de lui, en fait. Moi, je l'ai vu très...
Vous voulez dire qu'il a l'arrogance des timides ?
Ah oui, mais vraiment. Thierry, au départ, c'est un timide, vraiment. Je l'ai vu être fou de rage après une émission et me dire, oh là là, ça y est, c'est encore complètement raté, c'est trop sérieux. Et puis après, au montage, il me le fait à peu près chaque semaine, hein, ça. Après, il me rappelle au montage le vendredi, il me dit, ah ben, finalement, elle n'est pas si mal que ça. Et quand il y a les chiffres qui tombent le dimanche, il est ravi. Donc, et c'est comme ça depuis 7 ans. Donc moi, quand il me dit ça, après l'émission, il m'envoie un texto le jeudi soir, et comme je me couche très tard souvent, ça c'est à 3h du matin, hein, je vous parle de ça, hein, je lui dis, t'inquiète pas, attends le montage et attends les chiffres, parce que ça fait 7 ans que c'est comme ça.
Alors, vous dites, il m'envoie un texto à 3h du matin. Il faut qu'on explique quand même aux auditeurs, Béatrice Ardisson, que ça fait 10 ans que vous êtes partie, donc vous installez à la campagne.
Oui, 12 ans.
12 ans, exactement, oui. La belle campagne normande.
Non, mais, qu'est-ce que je raconte ? Ça fait 14 ans. Ah oui, c'est l'âge de ma fille.
On grimpe encore un petit peu.
Non, c'est l'âge de ma seconde fille, c'est comme ça que je m'en souviens.
Voilà, dans une grande et belle bâtisse, une demeure au milieu des prés. Thierry Ardisson, votre mari, lui, il est resté parisien. En fait, vous avez inventé la vie commune à distance.
Ouais, mais c'est ce que je dis souvent, on a tout de suite divorcé pour pas le faire plus tard. C'est qu'en fait, on s'est dit, avec ces vies-là, si les enfants sont au milieu, et il ne faut pas qu'ils soient victimes du stress que ça génère, ce genre de vie. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, quand on lance une émission, pour Thierry, il y a des moments où il n'a pas du tout le temps de s'occuper d'eux. Enfin, et moi, c'est un truc que j'ai réalisé très très vite. Et je me suis dit, oh là là, courage Fillon, je vais...
C'est vous qui avez pris la décision.
Ah mais oui, c'est pas du tout lui, le pauvre. Moi, j'ai été visitée.
Comment a-t-il réagi ?
Je lui ai dit, d'abord, j'ai commencé par dire, ça serait bien qu'on ait une maison le week-end. Et puis, j'ai visité une maison, alors je cherchais à une heure de Paris. Et j'ai trouvé cette maison, j'ai eu le coup de foudre. Elle était trop loin, trop grande, elle était à 2h30. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, c'était la troisième que je visitais. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, si on la prend pas, j'arrête de chercher. Donc, il est venu voir et il m'a dit, t'as raison. Mais en fait, c'était carrément un changement de vie que j'avais décidé sans faire gaffe, quoi. Mais ça m'a pas posé de problème. Ça s'est très bien passé, en fait.
Vous êtes partie avec Manon, l'aînée.
Avec Manon et Ninon qui avait 6 mois, avec deux toutes petites filles, une qui avait 2 ans et l'autre qui avait 6 mois. Et dans une région, je
Mais vous êtes retrouvée pratiquement mère célibataire avec deux enfants.
Pendant 3 ans, je me suis occupée de cette maison qui est quand même une grande propriété. Donc, je suis devenue chef de chantier. Mes parents étaient au sans-coup parce que je suis partie toute seule avec les enfants sous le bras. mais j'ai été élevée dans une grande maison. Donc, j'avais pas d'angoisse à ce niveau-là. Elle est dans un village, donc ça va. Mais c'est vrai que c'était complètement inconscient. Quand j'y pense maintenant, je me dis, je sais pas si je le referais. Mais à l'époque, j'étais absolument ravie de le faire. Et aujourd'hui, je suis ravie d'avoir fait, vraiment.
Mais vous avez de sacrées ressources d'énergie, Béatrice Arbisson. Du haut de votre 1m59,
ouais. 58.
Vous entreprenez des choses, franchement.
Oui, je suis assez inconsciente, en fait.
Vous vivez toujours là-bas.
Ah oui, oui. Non, mais je ne peux pas ne pas vivre là-bas. Je viens à Paris que pour mes rendez-vous. Je travaille là-bas aussi.
Alors, de Thierry et vous, lequel rend le plus souvent visite à l'autre?
Et bien, quand il y a un qui ne peut pas bouger, c'est l'autre qui bouge. Donc, l'électron libre, entre parenthèses, de la famille, c'est moi. Je suis tout le temps en train de faire des allers-retours entre Paris et la Normandie. Mes enfants sont en Normandie.
Et qui s'occupe d'eux quand vous n'êtes pas là?
Ils m'ont rejoint au bout de 3 ans, qui n'en pouvaient plus, les pauvres. Ils étaient morts d'inquiétude, parce que nous, on est une famille un peu à l'italienne. Et puis mon frère aussi, enfin tout le monde est venu me rejoindre. Donc maintenant, c'est un petit hameau familial et c'est très agréable pour les enfants. Ils ne sont jamais abandonnés.
En ce qui concerne l'éducation des enfants, Thierry Ardisson révélait il y a peu de temps de ça dans la presse qu'il a ce genre de détachement des pères du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il assure l'avenir financier de sa progéniture, de sa descendance, mais quand même pas trop près.
Mais moi, j'aurais jamais pu avoir un mari qui... On est pareil, en fait. J'étais ravie, moi, qu'il ne me demande pas de les changer, par exemple. Je voulais m'occuper de mes enfants. Moi, c'était une ambition dans ma vie, c'était d'avoir des enfants, quand même. Avant de travailler, bien avant, je voulais absolument être mère. Comme je vous l'ai dit, je viens d'une famille très nombreuse. Ils sont tous 5 ou 4. Pour moi, c'était quelque chose de normal. J'avais vraiment besoin de ça. Je me disais, je ne serai pas moi tant que je n'aurai pas mes enfants.
Mais ça vous aurait agacé d'avoir un mari qui joue dans le paysage des nouveaux pères?
Ah, j'aurais pas aimé ça du tout, moi. Je sais pas. Je me suis jamais imaginée comme ça, en fait. Je voulais un mari, quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, qui me protège, mais pas quelqu'un à qui dort pas la nuit pour s'occuper du petit dernier. Ça, je le fais très bien, moi. J'ai pas besoin de lui pour faire ça.
Vous le faites très bien, Béatrice Ardisson, mais quand même, avec le succès du business musical que vous avez monté, vous devez être de plus en plus souvent parisienne et puis de moins en moins souvent campagnarde aux côtés de Manon, de Ninon et de Gaston, non?
Non, je m'organise. Je ne fais jamais plus de 1 ou 2 jours à Paris. Et mon métier, c'est vraiment un métier sur mesure, puisqu'il se passe par ordinateur et par Internet, et que j'envoie mes musiques à mes collaborateurs et associés par Internet.
Donc vous avez votre bureau qui donne sur les prés.
Absolument.
N'est-ce pas?
Je ne sors pas beaucoup. Je suis beaucoup derrière mon bureau, mais j'entends tout.
Vous avez des chevaux, vous avez des oies, des canards. Absolument. Et vous êtes sous les combles.
Et tranquille, surtout.
Et tranquille, devant un mur d'ordinateur.
Oui, oui, oui. Ce n'est pas un mur d'ordinateur, je travaille avec des petits Mac portables. J'en ai deux. Donc c'est assez léger. Non, maintenant, j'ai vraiment essayé d'utiliser tout ce que la technique pouvait mettre à mon service pour travailler plus vite, plus efficacement, sur tous les projets qui m'intéressent. Et j'ai mis beaucoup de temps à organiser quand même tout ça. Ça m'a pris 7 ans.
J'imagine que vous devez beaucoup intriguer les gens qui habitent le village le plus proche, non?
Je sors pas. Je sors pas du tout. J'ai pas le temps de sortir.
Et quant à vos enfants?
Par contre, je les accompagne à l'école, mes enfants, dès que je peux. Enfin, ça, c'est un truc, dès que je peux, je le fais. Et puis, en ce moment, je peux pas souvent, mais enfin, je l'ai fait il y a 2 jours, par exemple.
Comment ils regardent s'agiter leurs curieux parents, vos enfants?
Alors, j'aurais posé la question, parce que justement, à un moment, je leur ai dit, j'ai commencé à partir en voyage et des choses comme ça, où là, les absences étaient un peu plus longues. C'est surtout Gaston qui est le plus petit pour lequel c'était un peu plus dur. Et à un moment, je les ai convoqués, je leur ai dit, est-ce que ça vous embête que je fasse ça? Parce que si ça vous embête, moi j'arrête. Je veux pas que vous me reprochiez ça plus tard. Et ils m'ont dit, mais ça va pas, nous on a une mère qui est DJ. Nos copains, ils te trouvent génial. Surtout, t'arrêtes pas. Et ils sont ravis. Ils veulent travailler avec moi.
Béatrice Ardisson, le livre choc et sulfureux, Confession d'un baby boomer, qu'a sorti votre mari donc à la rentrée, il vous a révélé certaines choses que vous ignoriez encore malgré 20 ans de mariage, ou bien...
Non, je connais absolument tout. Je l'ai lu.
Vous avez été la première à lire le manuscrit.
Il m'a fait lire toutes les épreuves, toutes les corrections. J'étais au courant de tout ce qui allait sortir. Et j'ai lu quelque part que les enfants n'étaient pas au courant. Les enfants connaissent très bien leur père. Je ne leur ai jamais rien caché parce que je ne voulais pas qu'à un moment ils aient un choc quel qu'il soit. Parce que c'est quand même un sacré loulou, Thierry. C'est pas tout.
Elle est mignonne, la formule.
C'est pas monsieur tout le monde. Mais tout de suite, et c'est ce qui m'a fait très plaisir, c'est que mes deux filles le lisent. Gaston, il a que 9 ans, donc il est un peu petit. Mais ma fille aînée m'a dit, mais c'est incroyable parce que je ressemble à papa. Et elle aime le livre, donc voilà, tout va bien.
Épouser un homme, c'est épouser sa vie. Rien, jamais, rien de lui ne vous a effrayé. Même la drogue au début.
Ah non, mais alors là, moi, je déteste ça. Donc, quand je l'ai rencontré, j'ai tout fait pour écarter tous les parasites qui rôdaient autour et qui pouvaient être mauvais pour lui.
Mais vous, vous ne vous êtes jamais écarté de lui.
Ah non, moi non. Mais non. Bah, on choisit pas. Moi, c'était l'homme de ma vie. Hein. Quand je l'ai rencontré, c'était lui, hein, c'était sûr. Et lui aussi. Donc après, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils se marient que pour le meilleur. Bon, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Hein. Il n'y a pas que des moments sympas. Il y a des moments durs, et nous, on en a eu. Mais il arrive toujours quand même, c'est lui, quoi. On n'a pas d'autre.
Alors, quand on a passé le cap des 20 ans de mariage, on se dit que c'est avec cet homme-là, forcément, qu'on finira sa vie.
Bah, j'ai pas beaucoup de points de comparaison autour de moi. Donc, j'ai pas beaucoup de gens avec qui discuter de ça. On sait jamais ce que la vie vous réserve. C'est pas un truc, je suis pas... Le courrier du cœur, c'est pas mon truc. Ça marche pour nous, c'est cette façon de vivre, mais on n'est pas à l'abri, ni l'un ni l'autre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, je suis toujours comme un oiseau sur la branche, je me méfie, je me dis, tant que ça dure, c'est formidable, et puis voilà, on en profite.
Avec le succès tout neuf donc, de votre société à vous, de Sound Designer, avec la vie de DJ que ça implique, puisque vous allez animer des soirées à Londres.
Je ne veux pas à Londres, j'étais à Tokyo.
À Tokyo
Ouais.
C'est encore plus loin.
En Belgique. Et
voilà. Alors on a le sentiment que, en fait, peut-être vous commencez à en avoir un petit peu assez d'être cantonné au rôle de mère de famille dans sa jolie demeure normande, prête pour la photo du Figaro Madame, et que soudain, vous vous êtes dit, à force de voir votre mari dans le poste tous les samedis soirs, attends, tu vas voir.
Non, j'ai pas
fait exprès. Tu ne me connais pas tout à fait.
Je ne l'ai pas fait exprès. Il se trouve que ça a marché et que j'étais... Ce projet, cette musique que je développe, c'est vraiment un projet. Ça m'intéresse tellement que je me suis pas... Le problème, c'est pas posé comme ça. C'était pas pour embêter Thierry, le pauvre. Mais c'est vrai que j'aime sortir, j'aime la nuit, mais il le sait, ça. Je le faisais avant de travailler, de toutes les façons.
Alors, vous le faites beaucoup moins maintenant, si vous vivez là-bas.
Ah, mais pourquoi? Ça n'empêche pas de faire des soirées, d'être à 2h30 de Paris. J'en ai une mardi prochain.
Et vous rentrez à l'aube, quand tout le monde dort?
Non, je rentre pas à l'aube en Normandie. Non, ça c'est dangereux, non. Non, je reste à Paris dans ces cas-là.
Votre ambition professionnelle, elle vous fait rêver de quoi, réellement, sincèrement, aujourd'hui?
Bah là, mon ambition, c'est vraiment de continuer à développer ces collections de CD chez Naïf, parce que j'ai la chance d'être dans une maison de disques qui m'aide et qui me suit depuis 7 ans. C'est assez rare, hein. Je parlais de ça avec Gilles Père, qui est le DG de Naïf, et qui me... Enfin, DG, je sais pas ce qu'il est d'ailleurs, mais grand patron, on va dire, et qui me dit, tu es une des rares à avoir tous ces disques au même endroit. Parce que c'est vrai que les gens bougent souvent dans les maisons de disques. Mais moi, ils m'ont laissé travailler, ils m'ont laissé suivre ce projet tranquillement, demander aux gens que j'aimais de travailler avec moi. Il y a Florence Degas qui a fait les pochettes, qui est une fille qui est formidable, qui a quand même fait le générique de Catch Me If You Can pour Spielberg, qui est très talentueuse. Il y a Yves Bigot qui écrit les textes. Parce qu'un CD, c'est pas juste du son pour moi. C'est plus que ça. C'est un tout petit objet qui peut être très luxueux, comme sont ces disques, où il y a à la fois le son, le graphisme et l'écrit, le texte.
Concept global.
Voilà. Et dans un tout si petit objet, on a ces trois choses qui sont quand même littéraires, créatives. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Si je peux continuer à faire ça, c'est mon rêve.
Voilà. Alors, quand la musique pour vous n'est pas un business, vous la consommez de quelle manière dans votre vie privée?
Moi, j'écoute de la musique tout le temps, donc j'écoute...
Premier geste du matin, vous choisissez un disque comme vous ouvrez les volets.
Ah non, mais je choisis pas les disques. C'est-à-dire que j'ai un système, je travaille avec des iPods, je sélectionne des disques, j'ai des petits dossiers sur mes ordinateurs, on les met dans l'iPod et j'ai des iPods pleins. Et quand je me réveille...
Mais en fonction des humeurs, quand même.
Ah mais non, parce que j'écoute de la musique tout le temps. Ouais. Donc là, en venant vous retrouver, j'ai écouté de l'opéra, parce que je suis en train de travailler sur l'opéra, voilà.
Après que vous avez d'ailleurs demandé... Pour l'Opéra Garnier.
Oui, ils m'ont fait venir pour une soirée qui était avant l'été, parce qu'ils voulaient ouvrir les portes à un public plus jeune.
Oui.
Et ils avaient envie de faire une soirée où il y avait des DJ, donc il y avait Ariel Wiesmann, il y avait moi. Et moi j'ai un projet vraiment qui est Opéra Mania, que j'aimerais bien développer. et continuer à travailler avec eux sur ce type de projet, parce que je suis persuadée que tout ce qui est musique classique aujourd'hui, il y a vraiment moyen de faire écouter ça à des gens plus jeunes. Et d'ailleurs, les rappeurs et compagnie ont pris plein de samples dans les titres classiques, et un type comme Gainsbourg a toujours utilisé la musique classique pour faire ses titres. Donc c'est très intéressant, c'est quelque chose à développer, à faire redécouvrir.
Mais alors la musique sous les lambris dorés de l'opéra, concrètement, ça s'est passé comment cette soirée?
Ah ben j'avais fait une recherche de titres opéra qu'on avait retouché, on avait mis des échos, des machins, on avait fait tout un boulot créatif là-dessus.
Créatif, dites-vous. Justement, ça peut aller jusqu'où la création en fait? Qu'est-ce que vous envisagez, Béatrice Ardisson? Par exemple, sonoriser des grandes villes, un petit peu comme on retravaille leur éclairage ou comme on pense leurs espaces verts, ça c'est quelque chose qui vous amuserait, qui vous intéresserait?
Ah mais bien sûr, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire pour le... En fait, la musique c'est quelque chose qui aide au bien-être des gens. Et moi, ça m'intéresse, vraiment. Je pense que dans les villes, il y a vraiment des nuisances sonores avec les voitures, que le son d'une voiture c'est nul, et que ça serait génial de pouvoir le masquer par des sons beaucoup plus agréables. Voilà, donc il y a sûrement des tonnes de choses à faire, parce que l'ouïe, c'est comme l'odorat, c'est un sens qui n'est pas primaire, c'est pas comme le toucher, quand on touche...
Ça parle aux endorphines.
Oui, et puis ça se fait pas comme ça d'un seul coup, c'est beaucoup plus fin que ça, petit à petit on se rend compte que l'odeur est agréable ou que le son est agréable, c'est des sens très fins. Mon travail, moi, c'est pas juste des chansons, hein, c'est aussi du son. Dans une grande ville, on peut très bien imaginer que dans certains endroits, on a plus de petits oiseaux ou plus de chutes d'eau, plus de cascades. Enfin, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que mon son recouvre les nuisances sonores provoquées par les voitures et les camions, que je déteste, et les coups de frein et les klaxons.
Vous seriez capable d'en parler à de Alanoé, par exemple, commencer par Paris?
Je vous ai dit que je n'ai jamais démarché, et même si c'est quelque chose qui m'intéresse, je n'oserais jamais faire ça. Je me vois très mal aller taper à la porte en disant « Ouh, non ».
Les défilés, les collections, est-ce que vous avez déjà bossé pour des couturiers?
Ben, je viens de travailler là. Je l'avais déjà fait pour Jean-Paul Note il y a quelques années, qui avait défilé, et là j'ai été contactée par Hervé Leroux pour Guy Laroche. Et il m'a demandé, parce que mon travail, il y a quand même une particularité, c'est que je travaille sur des thématiques. Et là, lui,
contrairement au DJ.
Oui, parce que souvent un DJ a un univers sonore, et ce qui fait la particularité de mon travail à moi, c'est que je travaille sur plein d'univers sonores différents, et c'est ça qui me permet de travailler pour des lieux différents. Parce qu'évidemment, ça n'a aucun intérêt de faire la même musique pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est de thématiser chaque lieu.
Alors, thématiser, quand on vient vous voir pour une collection de Guy Laroche, on vous demande quoi?
Voilà, alors là, Hervé Leroux m'a dit, moi, j'adore le film The Party, qui est un film que j'adore aussi, et est-ce que tu peux essayer de me faire une variation autour de cette époque, de ce film? Donc on a travaillé justement...
Tourné dans les années 60.
Voilà, avec une actrice qui s'appelle Claudine Longer, qui est une idole pour moi absolue, qui est sur mes disques d'ailleurs, qui est une chanteuse française qui était partie aux États-Unis et qui a joué dans The Party. Et donc on a créé tout un univers autour de ce film, on a créé un mix complètement qui partait dans tous les sens avec des musiques un peu pop, un peu psychédéliques, un peu avec des bouts de phrases de Peter Sellers. Ça c'est très très intéressant au point de vue créatif à faire.
Mais en fait, vous n'avez pas le sentiment d'avoir inventé un métier?
Bah, inventer. Il y a des gens comme Claude Chal qui le faisaient déjà, ce métier-là. Pompougnac, Coste, ils ont été quand même les premiers à le faire. Peut-être que de le développer comme je le fais aujourd'hui, à ma connaissance, de cette façon-là, c'est-à-dire en travaillant pour quelques personnes, pas pour tout le monde, dans le luxe, il n'y en a pas 15, hein, et c'est quelque chose qu'on développe tous les jours, c'est quand même un nouveau métier, oui.
Dans le Figaro économique, ça fâche toujours de parler des questions d'argent, mais je vais revenir parce que c'est quand même assez formidable, puisque vous avez démarré il y a peu de temps les bénéfices en 2004 de la société de Béatrice Ardisson, 600 000 euros.
Ben alors, je suis morte de rire parce que vous me dites ça. Quand je l'ai lu, j'ai appelé le gars. C'est pas moi qui m'occupe de ça parce que je suis nulle en chiffres. Vraiment, j'aime pas ça. Hein. Je suis pas du tout à ce niveau-là une femme d'affaires. J'aime bien savoir comment ça marche. Donc j'ai appelé. J'ai cru qu'il y avait une erreur. Je lui ai dit, mais ils se sont trompés là. Dis-moi, c'est faux. Il m'a dit non.
Ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant à ce point-là.
Ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas ça pour ça. Je pense que l'argent, c'est pas mon moteur. Vraiment, tout à fait sincèrement. Ce qui m'intéresse dans le métier que je fais, c'est toute la partie créative. Mais comme tous les artistes, il faut que ça tourne pour pouvoir vraiment réaliser les projets qu'on aime. Donc évidemment, je fais attention et on essaye de d'avoir des projets qui vont tourner ma société Cardisong. Et apparemment, ça marche. Parce que là, comme vous, moi franchement, j'étais fascinée par ce chiffre aussi.
Vous la trouvez comment, Béatrice Ardisson, la musique qui est programmée en boucle sur les radios FM en France?
Je pense que le commerce tue quand même un peu tout, parce que ce qui est programmé sur les radios, c'est la promo, c'est ce qui est en promo, c'est ce qui sort. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de création et de recherche et de programmation un peu qui n'ont rien à voir avec les tubes du moment, quoi.
L'époque manque d'humour?
Ben, moi, j'ai connu la période FM. Je ne suis pas une enfant du rock, je suis une enfant de la FM. On a eu cette espèce d'avalanche de radios où il n'y avait plus de pub, qui était absolument génial. Parce que ce qui était casse-pied dans les radios qu'on écoutait avant, c'était qu'il y avait toute cette pub. Mais c'est normal, les radios ont besoin de pub, c'est un truc, c'est comme ça que ça tourne. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est revenu un peu à ça, c'est un peu dommage. Alors moi, j'ai une autre méthode, c'est-à-dire que je rentre dans les marques, comme ça, je n'ai pas de pub, et je fais ce que je veux quand je travaille pour des gens comme Vuitton, où je n'ai pas besoin de faire passer de la pub dans ma musique.
Les compositeurs, Béatrice Ardisson, ceux qui créent ce que vous compilez, ils ne sont pas jaloux de votre succès médiatique? Quel rapport vous avez avec
non,
les
quand
gens...
quand je travaille avec quelqu'un comme Chris de...
Qui bosse dans les studios?
Ah non, mais moi, les gens...
Et qui eux façonnent la matière musicale.
Non, mais on travaille ensemble. Quand je travaille avec quelqu'un comme Chris de Multifunction, qui est aussi DJ, qui a travaillé avec moi dans des soirées et qui est aussi musicien, c'est un travail d'équipe, on travaille ensemble.
Comment vous leur parlez alors? Puisque vous, au départ, vous n'êtes pas orchestrateur, vous n'êtes pas compositeur. Quels sont vos mots à vous pour leur faire comprendre la musique que vous avez envie d'entendre?
Ça dépend. Chaque titre qu'on crée est différent. Je dis, est-ce que tu peux rajouter un peu de basse? Est-ce que tu peux enlever un peu d'aigu? Est-ce que tu peux... ça dépend complètement. C'est un dialogue entre le musicien et moi. On écoute, je dis non, mais là, je trouve que... Est-ce que tu peux pas essayer de l'accélérer? Est-ce que s'il est un petit peu plus rapide, est-ce que c'est pas mieux? Ou alors plus lent, à l'inverse? Le EIA qu'on a fait sur Paris Dernière 4 avec Chris de Multifunction, c'est un titre qu'on a fait nous.
Ouais.
Et c'est une idée que je lui ai donnée. Je lui ai dit, attends, moi j'ai envie qu'il y ait aussi des reprises de titres qui sont très récents mais qui sont destinés à devenir des classiques. Et c'est le cas de ce EIA. Et on a travaillé ensemble par téléphone, par internet. Dans ces cas-là, il m'envoie des petits bouts de ce que je voulais écouter. Et je dis, plus de ça, moi, c'est comme une recette. C'est ma petite cuisine à moi.
Alors on a compris que cette passion n'est pas un caprice. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter?
Que ça continue et puis que c'est vrai que c'est développer justement un son qui est parallèle à celui qui existe, qui n'est pas un mauvais son, ce qu'il y a sur la radio. Moi, je trouve ça très bien. De toute façon, la musique, c'est tellement énorme qu'il y a vraiment la place pour tout le monde. C'est un truc... Moi, je me suis créé mon univers musical. Je vis dedans toute la journée et bien souvent toute la nuit. Et c'est continuer à explorer cet univers-là. Ouais,
dans ça m'intéresse. Le dernier CD qui vient de sortir, Rio Mania, on se quitte en écoutant quel titre?
On va écouter... Alors, quelque chose de très intéressant, qui est l'original de Tu veux ou tu veux pas, que tout le monde connaît en France, a été fait par Zanini et Brigitte Bardot. Je peux pas le dire en brésilien, je suis désolée.
Allez,
Nem Vem Kinasten, je sais pas comment on dit. C'est Wilson Simonal.
Merci d'être venue nous voir, Béatrice Ardisson.
Merci, c'est gentil.
Que la route soit belle.